Bonté et amour envers les hommes. En cela consiste la perfection de Dieu, la perfection chrétienne et aussi notre mission dans le monde, qu'on appelle l'apostolat. La mission, l'évangélisation, consiste à donner à voir la bonté et l'amour de Dieu envers les hommes. La bonté qui toujours et partout conduit à faire et à dire du bien, parce qu'elle découle de l'essence de Dieu, parce qu'elle n'appartient pas au noyau d'une morale, mais constitue l'essence même de Dieu, comme l'a dit Jésus à quelqu'un qu'il avait appelé « bon maître ». Personne n'est bon que Dieu seul, et tout ce qui émane de lui. C'est pourquoi toute créature est en soi bonne. Le péché de l'homme n'est possible que parce que l'homme, en tant que fait à l'image et ressemblance de Dieu, possède une vraie liberté. C'est pourquoi il peut faire obstacle à sa propre vocation. Il peut se nier lui-même. L'homme ne peut abandonner la bonté qu'en niant sa propre origine et sa propre destinée. Sinon, chaque créature, parce que créature de Dieu, est bonne, est à approuver, à embrasser. On dit toujours, en s'inspirant d'un antique dicton de philosophe païen mais intelligent, que le bien rend à se communiquer, il est contagieux, et c'est pour moi la seule explication de la création. Pourquoi Dieu devrait-il créer le monde? Il est la plénitude de l'être, il n'a besoin d'aucun autre être pour être plus riche, plus beau, plus puissant. La seule explication de la création, que nous soyons ici et respirions, est celle-ci, que Dieu est bon, si bon qu'il laisse déborder sa bonté. C'est pourquoi Jésus a dit une fois, et San José Maria l'a prêché partout, que nous les hommes, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, nous avons tous cette destinée, cette vocation, être parfaits comme le Père céleste est parfait. Jésus a dit à des foules nombreuses, non à un petit groupe d'élus, « Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. La perfection de Dieu est la bonté, l'essence de Dieu est l'amour, mais cet amour qui est incompréhensible est apparu comme bonté, apparuit comme benignitas et humanitas. Puissions-nous devenir réellement bon et humain, car l'apparition de Dieu sur cette terre a lieu à ce niveau. Jésus incarne précisément cela, et c'est pourquoi il est l'unique modèle. On peut vénérer les saints. La vénération des saints appartient à la foi catholique. Si nous supprimions cela, nous nous appauvririons beaucoup. Mais de modèle, il n'y en a qu'un. Le Dieu qui s'est fait homme, Jésus-Christ, c'est comme modèle qui s'est lui-même présenté. Une fois, lors de la dernière scène, en prenant congé de ses disciples, il s'est agenouillé, Dieu à genoux. Lui qui a dit à Philippe, « Qui m'a vu, a vu le Père. » Pour laver les pieds des apôtres, non seulement par ce geste, mais aussi par ses paroles, il a dit, « Vous m'appelez maître ?» Et Seigneur, et vous avez raison de m'appeler ainsi, car je le suis. Mais si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, alors vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. L'autre fois, il dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Cette bonté n'est pas un petit détail. Cet amour pour les hommes n'est pas un phénomène secondaire. Il fait partie de l'essence de notre vocation chrétienne. Et cela signifie que ce n'est pas si simple, que cela coûte un effort. Il faut se dépasser pour être bon, à chaque heure du jour et envers chacun. C'est par là que nous assumons notre vocation. Saint José Maria le dit une fois à un jeune homme qui se donnait beaucoup de mal. « Tu suis un plan de vie exigeant. » Tu te lèves tôt, tu fais ta méditation, tu fréquentes les sacrements, Tu travailles ou étudies beaucoup. Tu es sobre, tu te mortifies. Mais tu remarques qu'il te manque quelque chose. Considère donc cela pendant ton dialogue avec Dieu. Puisque la sainteté, la lutte pour y parvenir, est la plénitude de la charité, tu dois reconsidérer ton amour de Dieu et à travers lui ton amour des autres. Peut-être découvriras-tu alors, caché dans ton âme, de grands défauts contre lesquels tu ne luttais même pas. Tu n'es pas un bon fils, ni un bon frère, ni un bon camarade, un bon ami, un bon collègue. Et comme tu aimes ta sainteté d'un amour désordonné, tu es envieux. Tu te sacrifies sur beaucoup de petits points personnels. C'est pourquoi tu es attaché à ton moi, à ta personne. Et au fond, tu ne vis ni pour Dieu ni pour les autres, mais seulement pour toi. Tout chrétien pieux et engagé devrait se soumettre souvent à ce rigoureux examen de conscience. Car, comme l'affirmait saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. À ce qu'on en dit, saint François de Sales a été un coléreux impulsif, également partisan d'une particulière dureté envers les calvinistes. Mais au fil des ans, il a changé du tout au tout, au point d'entrer dans l'histoire de notre Église comme un exemple de bonté. Tâche ardue mais fructueuse. On n'attrape plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec un tonneau de vinaigre. Un jour, la supérieure d'un couvent lui écrit que trouble et tiédeur règnent dans son couvent, qu'on n'y vit pas l'amour fraternel et que la règle aussi y est peu respectée. Et elle demande au saint fondateur ce qu'elle doit faire. Celui-ci répond simplement « Mieux vaut plus de bonté que de sévérité ». L'incarnation de l'amour qui redime le monde, c'est la bonté qui apparaît à Noël. Nous implorerons cette bonté. Peut-être est-elle le meilleur remède pour notre société et notre Sainte Église. Dans des époques de détresse, d'angoisse, de lassitude, ce n'est pas tant l'enseignement d'un sage qui nous aide que la bonté d'un chrétien. Cela donne consolation et sentiment de sécurité, parce qu'elle est la forme d'apparition de Dieu devenu homme. Pensons que cette bonté de Dieu devint humaine dans le sein d'une femme. Emplie de l'Esprit-Saint, Marie a conçu la bonté de Dieu et lui a donné sa propre chair et son propre sang, de sorte que la bonté de Dieu a pu devenir une véritable humanité. Nous ne pouvons l'omettre ou l'oublier. C'est aussi pourquoi nous ne cessons de la saluer par le Salve Regina, Mater Misericordiae, salut ô Reine Mère de Miséricorde. Et nous concluons cette antienne célèbre sur les paroles « Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô Douce Vierge Marie ». Patience, non-activisme. L'avant est le temps de l'attente, c'est-à-dire de la patience, ce dont nous parlons trop peu. La patience est peu appréciée de nos jours, car elle suscite l'impression de la passivité et nous tendons tous vers l'activisme. Celui-ci a de très beaux atouts, jouit d'une bonne réputation dans la société et se présente aussi dans des cercles chrétiens comme zèle, responsabilité, effort méritoire. Mais l'activiste montre son visage bien trop humain, là où règne crispation, nervosité, inclination à la colère ou à l'abattement, à l'emportement et à la déception, quand quelque chose ne nous réussit pas. Dans le développement de la personne, l'activisme est d'abord motricité infantile et juvénile, admiration naïve, si ce n'est adoration de l'action. Au commencement était l'action. On n'a pas encore expérimenté que le meilleur de la vie, et chacun le trouvera confirmé par sa propre biographie, est donné en cadeau. On ne le contient pas. L'amour, l'inspiration, la connaissance, la joie, le bonheur conduisent à l'action, nous meuvent, mais ils ne sont pas des actions, ni non plus accessibles par des actions. Plus tard, l'activisme est réclamé par la pression sociale, la concurrence, l'envie, les demandes exacerbées de bien-être, les promesses de la société, du rendement, qui produit plus arrive à plus. Mais justement, ceux qui ont le plus de succès dans cette société qui est nôtre, ce ne sont pas toujours les plus travailleurs, mais plutôt les débrouillards, parfois aussi les purs prodiges, les privilégiés, les membres d'un parti, etc. Qui est entraîné dans cet engrenage croit, plus ou moins explicitement, que celui qui produit plus a plus de valeur, de sorte qu'on ne peut être aimé et apprécié que comme producteur et non comme personne en soi. L'activisme est alors pratiquement une dépréciation de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, une dégradation de l'âme et du cœur. Je suis mon action. Et si, pour diverses raisons, maladie, âge, malchance, échec, erreur, cet activisme qui est le mien ne peut plus subsister, alors je suis bon à être jeté à la poubelle. Je suis une vie sans valeur. Derrière la façade de nombreuses névroses et maladies mentales, il y a cette attitude complètement fausse. Si je ne connais pas le succès, je ne mérite pas de vivre. On oublie la dignité de la personne qui est complètement indépendante de la dimension humaine sociale, de l'importance, de l'influence. Elle consiste justement en ce que l'homme a été créé pour lui-même. L'activisme peut alors devenir une véritable hérésie de vie. Finalement, il peut s'introduire aussi dans la vie d'un chrétien, là où la grâce divine, le surnaturel, le divin sont tout bonnement sous-estimés, peut-être pas en théorie, où la vertu devient une performance, une autodiscipline purement humaine ou un ornement du moi que l'on a toujours présent devant soi. Dans ce cadre-là, de l'activisme, la sainteté devient un idéal du moi, une auto-réalisation de la personne, un brillant succès. Même les sacrements peuvent être mis au service de la vertu, ainsi comprise, devenant des moyens en vue de la fin de l'auto-élévation, l'auto-accomplissement. D'où la tension que l'on ressent chez certaines personnes pieuses, la crispation d'une lutte égoïste, la recherche constante de confirmation, de satisfaction, de résultats calculables. D'où aussi la peur de l'insuccès et aussi certains scrupules qui peuvent présenter la personne comme sensible et manifestent au fond réellement un grand égocentrisme. D'où aussi certaines minuties étriquées qui peuvent manifester à l'extérieur des dépressions souvent masquées. Personne ne le remarque. Mais voilà que devient manifeste un jour qu'ils ont été des activistes. Ils ont mené l'action à la perfection, mais un jour, c'est l'effondrement. L'activisme, c'est du pélagianisme, ce qui signifie « je peux tout obtenir, y compris mon auto-accomplissement, ma sainteté ». C'est un égocentrisme radical, une foi faussée, une espérance faussée, un amour faussé, en un mot, impatience. La patience, l'attente amoureuse n'est pas paresse, passif, insouciance. Mais elle veut simplement dire, comme le disait Saint José Maria, marcher au pas de Dieu, du grand art, il conduit non seulement l'histoire du monde, mais aussi l'histoire de chacun d'entre nous. Il guide, il dicte, il souffle à l'oreille. Et il me faut avant tout être attentif. Patience signifie prêter attention. Que veut-il de moi aujourd'hui? Et puis beaucoup d'engagement? Ce qu'il veut, moi aussi je veux le vouloir en gardant cependant toujours mon sang-froid. Car Dieu attend de nous que nous courions parfois, une autre fois, que nous sachions nous arrêter et attendre. Parfois que nous avancions lentement ou que nous montions comme des fusées. Il faut vivre en étant attentif, en étant patient. Non, en suivant ses propres idées, mais en étant toujours attentif à la volonté de Dieu. Raymond Lull écrit dans son livre « De l'amant et de l'aimé ». L'aimé demande à l'amant s'il a de la patience, et celui-ci répondit « Toute chose me plaît, et c'est pourquoi il n'y a rien qui puisse m'impatienter, car quiconque a renoncé par amour à sa volonté ne peut être impatient. » Mais la patience signifie aussi infatigabilité, non pas au sens d'une force corporelle ou psychique, mais au sens de l'espérance surnaturelle toujours vive. C'est pourquoi la patience est constante, sans être lourde, butée, grincheuse, sans importuner ou quereller quiconque. Mais l'infatigabilité des saints est justement la meilleure manifestation de leur patience. La patience est humble, très différente de la présomption vantarde à l'ego surévalué, qui est également infatigable parce qu'elle veut s'imposer et s'affirmer. Elle garantit l'humble certitude que Dieu révèle sa force victorieuse au travers de la faiblesse humaine, comme nous le dit saint Paul, et qu'il réalisera son œuvre d'une façon ou d'une autre, avec nous, par nous, et même contre nous. La patience est humble. Elle regarde toujours l'agir de Dieu, l'opus Dei, non pas comme une œuvre achevée, mais comme un agir constant de Dieu, que boitant et trébuchant, souvent presque hors d'haleine, nous essayons cependant de suivre. Alors nous irons au rythme des pas de Dieu et nous deviendrons aussi peu à peu une œuvre de Dieu. C'est pourquoi la patience est toujours sereine, pieuse, confiante. Pour finir, la patience est participation à la patience de Dieu, ce conducteur du monde, qui laisse cependant aux hommes leur liberté, ne les obligeant pas à un bon comportement et n'empêchant pas les catastrophes que leur vanité, leur orgueil, leur sensualité provoquent. Il conduit l'univers avec patience, dit le livre de la sagesse. Le Seigneur est longanime. Peut-être nous regarde-t-il dans les larmes, mais toujours en souriant. Nous, ces nains, qui agissons et parlons avec tant d'orgueil, il a de la patience envers nous. Un jour, cependant, il y a 2000 ans, cette patience royale du Dieu souverain s'est faite patience humaine en Jésus-Christ, patience humaine sous forme d'esclave, dans l'obéissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi saint Paul écrit aux Thessaloniciens « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la constance du Christ. » Jésus a transformé cette souveraineté de la longanimité de Dieu en patience humaine. Il est venu pour témoigner de la vérité que lui-même était, et il a semé l'éternelle parole de Dieu sans hâte, mais à profusion. La parole qu'en partie les oiseaux mangent, qu'étouffe en partie les ronces et les épines de la terre, et qui par la patience ne donne du fruit qu'en partie. C'est la patience de Dieu qui vient dans le monde, qui n'est pas reçue ni reconnue par lui, qui est tenue pour fou, complètement incompris. Il consume son existence durant 3 ans. Souvent, il se retirait la nuit après la journée bien remplie pour prier. La patience de Jésus-Christ, de la divinité qui s'introduit dans l'étroitesse de cette vie et de ce temps pour nous enseigner la patience divine. Elle est aussi l'attitude de fond de Marie qui a cru. Quelle foi patiente! 9 mois durant, qui lui fit accepter de porter Dieu en son sein et d'offrir à Dieu son humanité. Nous savons qu'après la naissance aussi, souvent elle n'a pas compris. Personne ne peut comprendre le mystère de Dieu, mais on peut cependant le porter dans la patience jusqu'à la dernière heure. Dieu devenu homme nous a murmuré le mystère. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies.